Heure bleue sur France Inter.
La manière dont nous faisons l'histoire nous détourne de savoir l'histoire que nous faisons. Mais l'ignorance ne peut jamais être que relative. Ce que nous ignorons se rappelle fatalement à notre attention par un canal ou par un autre. D'où l'inquiétude qui mine néanmoins cette assurance somnambulique et qui pointe inexorablement vers l'heure de l'éveil. Marcel Gaucher est ce soir notre invité pour le tome 4 de l'avènement de la démocratie intitulé « Le Nouveau Monde » et pour la publication en livre de poche de son livre « Comprendre le malheur français ». Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique avec Nick Cave.
Where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. You don't owe no money, get you some. You don't have no car, get you one. You don't have no self-respect, you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast wherever he stands, stacks of green paper in his red right hand.
J'étais sûr, Marcel Gaucher, que vous aimiez Nick Cave.
Comment pouvez-vous?
Parce qu'on va découvrir au cours de l'émission vos choix musicaux et que j'ai cru comprendre que vous aimiez ce genre de chanteur. Je sais que vous aimez aussi beaucoup les séries et il se trouve que ce titre que nous écoutons est aussi le générique d'une série qui s'appelle Peaky Blinders et que vous aimez aussi car vous êtes consommateur de séries.
Je ne suis pas un grand consommateur, un consommateur systématique. Il y a des addicts des séries, j'en suis pas. Mais je suis très frappé par la qualité de certaines d'entre elles et celle-là mérite à coup sûr la palme pour la qualité de sa réalisation et une espèce de profondeur humaine des situations qu'elle met en scène qui m'a effectivement frappé au plus haut point.
Sur fond de révolution, de mafia, de violence, de terrorisme, enfin bref.
De guerre.
De guerre.
C'est un le monde de l'après-1918. Elle est avec le croisement avec la révolte irlandaise. Enfin, c'est formidablement saisi comme ambiance
historique. Avec un des plus beaux acteurs que j'ai jamais vu.
Il est super.
À l'écran. Alors, la révolution, ça vous connaît, Marcel Gaucher, parce que depuis l'aube des années 80, vous avez publié un nombre considérable de livres ayant trait à notre révolution, je veux dire la révolution démocratique. Vous êtes apparu dans le paysage intellectuel français en 1980 avec un livre qui déjà s'était fait remarquer, qui s'intitulait « La pratique de l'esprit humain ». Et je n'oublierai jamais que c'est par votre interrogation sur l'asile, l'institution asilaire, et ce que ça voulait dire en termes de démocratie, l'asile, que vous avez commencé à travailler. Ensuite, il y a eu le désenchantement du monde, la révolution des droits de l'homme, l'inconscient cérébral, la révolution des pouvoirs. Je ne vais pas citer tous les titres, mais il se trouve que petit à petit et progressivement, au terme de cette grande enquête qui est à la fois historique, institutionnelle, politique, psychanalytique aussi, même si vous vous revendiquez pas de Freud, vous faites appel aux inconscients collectifs pour mieux comprendre notre histoire contemporaine, vous signez l'avènement de la démocratie numéro 4, le Nouveau Monde. Et je dois vous dire que ce livre est très important par bien des égards, parce que nous tous, citoyens, nous parlons politique, nous écoutons ce qui se passe dans les journaux d'actualité. Nous venons d'entendre Nicolas Demeurant s'inquiéter à juste titre de l'absence, peut-être pour les prochaines élections présidentielles, d'un électorat jeune. Bref, nous nous intéressons à la représentativité ou pas du politique. Et vous, intellectuellement, vous nous donnez des racines pour comprendre ce qui se passe dans notre propre pays. Et vous dites, en guise d'introduction dans ce nouveau livre, Marcel Gaucher, vous dites, le nouveau monde, c'est nous. Le nouveau monde, c'est l'Europe. Le nouveau monde, ce ne sont pas les États-Unis. Le nouveau monde, c'est de ce nouveau monde-là, le nôtre, que va peut-être renaître un renouvellement des principes démocratiques. Pourquoi ?
Alors, il y a en effet paradoxe dans cette situation, puisque nous sommes habitués, au fond, depuis un siècle et demi, disons, à voir dans le nouveau monde au sens géographique la matrice du futur. Et depuis Tocqueville, disons, au milieu du 19e siècle, nous avons pris l'habitude de considérer que notre futur se profilait de l'autre côté de l'Atlantique. C'était vrai, à beaucoup d'égards, ce ne l'est plus. Ce ne l'est plus d'abord parce que les Européens ont réglé le problème avec leur passé, qui effectivement les retenait dans la voie de la modernité. C'est fini. Cet ancien régime qui a obsédé les sociétés européennes jusqu'à une date tout à fait récente est derrière nous. Et en revanche, je crois que ce qui s'est passé en Europe depuis un demi-siècle nous propulse de nouveau à l'avant-garde de ce qui a été le mouvement générateur de la modernité depuis très longtemps, depuis le XVIe siècle, et que nous nous retrouvons d'une certaine manière, au milieu de tous nos problèmes, en avance sur le cours de l'histoire, dans un mouvement d'invention dont nous ne sommes pas très conscients. J'ai essayé justement de contribuer à cette prise de conscience, parce que justement, l'Europe, c'est le continent de ce qu'est le processus générateur de la modernité, c'est-à-dire ce que je propose d'appeler « sortie de la religion », et que de ce point de vue-là, nous avons fait le pas déterminant qui nous met en même temps dans les plus grandes difficultés, parce qu'il crée un nouveau monde cette fois, non pas au sens géographique, mais au sens historique, au sens anthropologique du mot. Là, Tocqueville parlait déjà de l'émergence d'une nouvelle humanité, mais je crois que nous y sommes pour de bon dans l'Europe d'aujourd'hui. Simplement, il faut que cette nouveauté apprenne à se connaître, à se maîtriser. Et c'est ce qui fait la difficulté d'être tout à fait particulière de nos sociétés. Au fond, il y a une double exception à laquelle nous ne pensons pas assez de l'Europe, dans le monde au sens banal du mot d'aujourd'hui. C'est le continent le moins religieux, du point de vue de la pratique des individus, et c'est le continent où ce repère immémorial de la vie sociale qu'était la famille a connu la transformation la plus profonde. Eh bien, ces deux nouveautés-là nous mettent tout de suite, parce que c'est ce que n'importe quel observateur venant du reste du monde qui arrive en Europe remarque. Là, c'est une expérience familière pour qui a un peu l'habitude de ces échanges de regards. Eh bien, ces deux nouveautés, ces deux ruptures, nous mettent sur la piste de ce qui s'est joué dans le laboratoire européen. Nous avons l'impression d'être vieux et plus ou moins retraités de l'histoire. Eh bien, il faut savoir reconnaître que nous sommes, d'une certaine façon, à l'avant-garde la plus périlleuse du mouvement moderne.
Alors, un point à préciser d'emblée, Marcel Gaucher, quand vous parlez de l'Europe comme laboratoire de la future modernité, vous ne parlez pas forcément de l'Europe institutionnelle, non, de la Commission de Bruxelles, vous ne parlez pas des atermoiements et des complications qu'endure en ce moment cette Europe institutionnelle. On a appris le week-end dernier que Jean-Claude Juncker voulait pas se représenter, que de plus en plus de voix majoritaires au plus haut sommet des sommités européennes disent qu'ils ne croient plus à ce projet européen. Vous parlez des pays européens tels qu'ils existent maintenant, qui sont possiblement, justement, ceux qui vont permettre la régénération des principes démocratiques.
Et permettre aussi une réinvention du projet européen. D'ailleurs, c'est un slogan général, les propositions concrètes ne vont pas très loin, mais il n'est bruit que de refondation de l'Europe. Mais pourquoi faire? À partir de quoi? Dans quelle direction? C'est ça qui manque et que nous pouvons éclairer. Il faut considérer l'Europe, justement, comme un espace de civilisation fragmenté en nations qui ont fait une tentative d'unification qui visiblement n'a pas trouvé sa bonne assiette jusqu'à présent, mais l'histoire est ouverte. Et il s'agit précisément de poursuivre dans cette voie en imaginant autre chose. Et c'est tout à fait de l'ordre du possible, à mon sens, même si les pesanteurs institutionnelles, on le sait, sont très lourdes.
Alors, sortie de la religion, la sortie de la religion, manifestement pour vous et Marcel Gaucher, une condition nécessaire et indispensable pour un fonctionnement démocratique. Et c'est en cela que vous opposez, d'ailleurs, le système américain au système européen.
Alors, la comparaison avec le système américain est compliquée parce que, en même temps qu'en effet, y a une présence de la religiosité dans les rouages de la société américaine, on ne peut pas dire que la politique démocratique n'y soit pas régnante. C'est là où la comparaison doit être fine. C'est pas d'opposer grossièrement religion, absence de religion. D'ailleurs, ce que nous voyons comme débat démocratique aux États-Unis aujourd'hui pourrait à beaucoup d'égards rappeler ce que nous connaissons, nous, de notre côté de l'Atlantique. La sortie de la religion, il faut s'entendre sur le mot. Il s'agit pas des croyances des personnes. Il s'agit d'un mode d'organisation des sociétés qui a prévalu à travers l'histoire jusqu'à il y a très peu de temps, hein, et dont la particularité européenne est d'avoir entrepris de lui en substituer un autre à partir du XVIe siècle. On voit émerger une autre manière pour les sociétés de s'organiser en dehors de ce qu'a été l'organisation religieuse du monde. Cette manière s'est exportée aux États-Unis, s'est exportée d'ailleurs au-delà même des États-Unis, dans tout un espace qu'on appelle aujourd'hui, de ce terme confus, d'Occident, qui n'a pas grand-chose de géographique. Mais il est vrai que en Europe, et c'est l'objet de mon livre, ce processus d'invention d'une forme d'organisation politique, sociale, temporelle, historique, alternative à l'ancien mode d'organisation religieuse des sociétés, c'est là qu'elle a été le plus loin. Et ce processus qui vient de très loin a connu, me semble-t-il, dans la période récente, une accélération tout à fait extraordinaire.
Alors...
C'est là une accélération dont on a des traces dans le monde américain. Et là aussi, il y a une grande proximité dans la différence. Mais je pense qu'il y a une radicalité européenne incomparable.
Alors, radicalité des principes démocratiques, on en a bien besoin en ce moment. Marcel Gaucher, après avoir désenchanté le monde, vous réenchantez le monde du politique, du principe politique au plus haut, dans la plus haute acception du terme. Il se trouve que Maurice Merleau-Ponty, qui était un philosophe, s'est assez peu exprimé sur sa croyance en la politique. Nous avons retrouvé une archive où vous allez l'entendre. Il va plaider, c'était le 19 juin 1956, pour une démocratie parlementaire. Nous écoutons le philosophe Maurice Merleau-Ponty.
Il y a, à mon sens, un échec politique et un échec philosophique du marxisme qui tient à ce que le marxisme a cru que l'on pouvait réaliser dans un fait historique tel que le prolétariat toutes les valeurs humaines, et réaliser dans un second fait historique qui est le parti, toutes les valeurs du dit prolétariat. C'est cette espèce de réalisme qui fait qu'on bloque sur le prolétariat comme facteur historique et sur le parti comme représentant du prolétariat l'ensemble des valeurs humaines. C'est cette pensée, cette manière de penser, qui s'appelle matérialisme historique, enfin, qui me paraissait être, ou qui en tout cas présuppose le matérialisme historique, qui me paraissait être... mise à l'épreuve par les faits présents. Alors, j'indiquais que pour ma part, dans ces conditions, je ne voyais pas d'autre manière que de me replier provisoirement sur les conceptions de la démocratie parlementaire, non pas du tout que je les considère comme suffisantes pour faire face aux problèmes d'aujourd'hui. Suffisantes, sûrement pas. Mais ce régime m'apparaissait simplement comme le seul régime dans lequel il puisse y avoir une opposition. Comme l'existence d'une opposition est absolument nécessaire à la vie et à la vérité d'un système politique, sans quoi il devient sclérose, il devient pur appareil. Il me semblait que c'est sur cette position de méthode que l'on devait se replier jusqu'à ce qu'on ait mis sur pied une autre pensée politique et une autre philosophie politique.
Alors c'était en 1956, nous venons d'entendre les propos de Maurice Merleau-Ponty. Qu'en pensez-vous, Marcel Gaucher? Ils rejoignent un peu certaines de vos analyses dans votre nouvel ouvrage, et notamment l'échec, ce que vous nommez l'échec du socialisme du réel.
Le propos de Merleau-Ponty est tout à fait caractéristique du grand mouvement auquel nous ne faisons pas sa juste place en général dans nos regards historiques rétrospectifs de réinvention de la démocratie qui s'est effectuée en Europe après 1945, après l'épreuve des totalitarismes et en réponse à cette épreuve. Nous ne mesurons pas assez combien nos systèmes démocratiques se sont transformés en fonction de cette espèce d'épreuve de réalité extraordinaire qu'a été le totalitarisme, qu'il soit d'extrême droite ou d'extrême gauche. Et je crois que la démocratie européenne tient sa spécificité de cette réponse qu'elle a été capable d'apporter à la menace totalitaire, qu'il s'agisse des réformes de l'État social, qu'il s'agit changement radical de la société, on s'en aperçoit maintenant, où des menaces se profilent sur son existence, la part de gens qui ne me semblent pas avoir bien mesuré l'enjeu de ce dont il s'agit avec une vision purement chiffrée du problème. Qu'il s'agisse aussi bien de l'État de contrôle de la vie collective et de l'économie en particulier. Certes, la vague de libéralisation récente a retiré beaucoup de ces instruments, mais nous ne nous rendons pas compte de la différence avec ce qu'était cet État libéral classique qui subissait les événements économiques, les crises, sans avoir de moyens d'y répondre, quelle que soit la bonne volonté des acteurs. Nous sommes dans une autre démocratie, et c'est cette démocratie qui est aujourd'hui sommée de faire un pas supplémentaire. Je dirais que la situation où nous sommes, à beaucoup d'égards, infiniment moins menaçante que ne pouvait l'être celle du monde à l'époque où parlait Merleau-Ponty, 1956, l'insurrection hongroise, on est en pleine guerre froide, et en pleine interpellation du totalitaire de la part de l'Union soviétique dans son empire à l'Est. Nous sommes dans des conditions relativement beaucoup plus favorables, beaucoup plus faciles, mais nous sommes au pied du mur d'une transformation, à mes yeux, tout aussi profonde des démocraties que celle qui s'est jouée à ce moment-là.
En tout cas, Marcel Gaucher, dans cet ouvrage, et aussi d'ailleurs dans celui qui sort en poche ces jours-ci, « Comprendre le malheur français », vous pratiquez l'histoire dans la longue durée. Vous étudiez les soubassements de l'histoire, ce qui se fait à bas bruit et qui ne fait pas forcément date, mais qui travaille le corps social en profondeur. Mais vous accordez quand même beaucoup d'importance à certains personnages de l'histoire. Et parmi eux, dans ce dernier ouvrage, Le Nouveau Monde, eh bien, il y a le général de Gaulle. Le général de Gaulle, dont nous allons entendre la voix, c'était au moment de la constitution de la Ve République. Nous allons entendre le discours sur la place de la République. C'était le 4 septembre 1958, archives INA.
Le gouvernement est la charge des affaires publiques, qu'il est à fixer notamment le régime électoral, ainsi, par mandat du peuple, seront prises les dispositions nécessaires à la mise en place des futures institutions. Voilà, Françaises, Français, de quoi s'inspire, en quoi consiste la Constitution qui, le 28 septembre, sera soumise à vos suffrages. De tout mon cœur, au nom de la France, je vous demande de répondre oui. Si vous ne le faites pas, nous retomberons le jour même dans les errements que vous savez. Si vous le faites, la République deviendra forte et stable, pourvu que les hommes responsables sachent désormais le vouloir. Mais aussi, cette manifestation positive de la volonté nationale sera le signe que le peuple français recouvre son unité et du coup, les chances de sa grandeur.
Ça vous fait sourire, Marcel Gaucher, d'entendre la voix du général de Gaulle, mais on se dit qu'il y a peut-être une sorte d'appel à la religiosité de l'idée de la France. Quand on entend le général de Gaulle, on se dit que les discours des futurs présidentiables sont quand même bien ternes. Alors il faut rappeler les circonstances.
Un cran en dessous, c'est incontestable.
Beaucoup de crans en dessous. Il parle du cœur, il parle de l'idée de la France du cœur. Il en appelle au peuple. Il faudra attendre quelques années pour que la Ve République puisse naître. Mais il n'empêche que, comme l'a dit François Mitterrand avec ce livre intitulé « Le coup d'État permanent », ce n'est peut-être pas forcément un coup d'État permanent qu'a opéré le général de Gaulle à cette période-là de l'histoire. Il a peut-être assuré les principes démocratiques de la France pour des décennies.
Bien, nous en sommes les heureux bénéficiaires encore aujourd'hui. Il est vrai que son œuvre a été assez mal comprise par une partie importante du pays sur l'instant. Mais il faut reconnaître à ce personnage, dont la rhétorique aujourd'hui est évidemment très datée, une sorte d'intuition politique prodigieuse qui en a fait, comment dire, l'homme qui a su résoudre le problème politique français qui s'était ouvert avec la Révolution et qui ne trouvait pas d'issue, qui faisait balloter ce pays entre des régimes autoritaires insupportables, de type bonapartiste par exemple, et d'autre part, une espèce d'anarchie parlementaire qui frustrait profondément les citoyens et alimentait une protestation tournant assez facilement à la protestation antidémocratique. De Gaulle a réussi à accorder ces deux composantes du suffrage populaire et de l'autorité de l'État dans une synthèse qui n'est pas parfaite, qui peut encore être grandement améliorée sur beaucoup de points, parce que les mœurs évoluent, la société change, les défis sont plus les mêmes de même nature, mais il a, en gros, appris aux Français à se réconcilier avec une histoire qui, pendant plus d'un siècle et demi, avait été une histoire convulsive, chaotique, terrible à beaucoup d'égards. Je crois que c'est une chose qui ne se produit pas très souvent dans l'histoire. Et on voit bien, dans le climat d'aujourd'hui, combien l'idée d'un homme qui serait à la fois un grand démocrate incontestable, qui ne cherche pas le pouvoir pour lui-même, et qui en même temps aurait l'énergie, la capacité de direction, la vision de ce qui s'impose en fonction de la situation pour l'intérêt supérieur du pays, eh bien, au fond, on serait content d'en avoir un sous la main. En tout cas, beaucoup de Français, manifestement, inclinent à cela et se désolent de ne le pas voir paraître.
Vous écoutez France Inter, c'est pas une mauvaise idée. Vous écoutez L'heure bleue avec Marcel Gaucher. Vous écoutez le choix musical de Marcel Gaucher. Rita Mitsouko, pourquoi Marcel ?
Parce que c'est une chanson qui m'a beaucoup frappé quand je l'ai entendue, qui m'est restée dans la mémoire, ce qui est rare, puisque au fond, ce qu'on entend comme ça, c'est de la musique de flûte. Une chanson chasse l'autre. Celle-là m'a paru avoir une sorte de vérité existentielle tout à fait particulière qui m'a saisi sur l'instant.
Dans cette émission, Marcel Gaucher, chaque soir, nous demandons à quelqu'un qui connaît bien le travail de la personne invitée de s'exprimer, de donner son point de vue, négatif ou positif, peu importe, liberté totale. Vous n'êtes pas au courant, évidemment, nous avons choisi de demander à Mona Ouzouf, qui est historienne comme vous, qui s'intéresse à des thématiques assez proches de vous, notamment l'histoire de la Révolution française, la liberté, qu'elle soit celle de l'individu ou la liberté en politique. Elle a écrit, son dernier livre s'intitule « De révolution en République ». Elle a écrit aussi un livre admirable sur Jules Ferry, un autre sur la cause des livres. Bref, c'est à elle que nous avons demandé de parler de votre travail. Écoutez-la, Mona Ouzouf.
L'œuvre de Marcel Gauchet m'inspire une admiration intimidée. Et qu'au fond, je n'arrive jamais à le lire sans le sentiment presque de sidération que donne une performance exceptionnelle. Et en effet, l'œuvre a de quoi impressionner par bien des caractères. D'abord par son étendue. Parce que ce que Marcel Gauchet raconte, c'est une histoire multiséculaire. Puis il y a le volume de l'œuvre qui comporte des milliers de pages, tantôt philosophiques, tantôt historiques, tantôt économiques, tantôt juridiques, tantôt anthropologiques. Donc étendue, volume, et aussi le style qui est particulier, parce que Marcel Gauchet a une manière philosophique d'écrire l'histoire, qui n'appartient qu'à lui, et une sorte de force, d'énergie vitale dans la démonstration qui fait que, une fois embarqué dans son raisonnement, on arrive très difficilement à s'en extraire pour avoir sur ce raisonnement un regard critique. Et il y a plusieurs choses à ajouter à cela, sans doute. La première, ce serait de dire que toute l'érudition déployée, la révérence pour l'érudition s'accompagne d'une sorte d'irrévérence de la pensée. Parce que chacun des livres de Marcel Gauchet arrive ou éclate un peu comme un coup de tonnerre dans un ciel paisible. C'est vrai de chacun de ses livres. Dans le livre sur le désenchantement du monde, alors que la plupart des intellectuels sont occupés à expliquer que le monde est réinvesti par le religieux, Marcel Gauchet explique que pas du tout, qu'il est de plus en plus désenchanté, et que les grandes religions sont bizarrement les moins religieuses de toutes. Ce qu'évidemment personne n'attendait, cette démonstration. Donc à chaque fois, il y a un côté de surprise, en même temps que de sidération. Et puis, on pourrait ajouter encore, ça c'est à mon avis un thème assez caché dans l'œuvre, qui est en tout cas très peu souligné, et qui est ce que j'aurais presque envie d'appeler, mais là je vais loin, sa force comique. Alors, je pense que ça peut être surprenant de dire ça. D'ailleurs, force comique n'est pas le bon mot. Ce qui serait le mieux, c'est, disons, le côté jubilatoire de l'œuvre. On sent dans ce qu'écrit Gauchet, la jubilation à être un dynamiteur. Et ça se sent, je crois, partout. Et ça se sent d'autant plus qu'une de ces figures rhétoriques les plus habituelles chez lui, c'est la figure rhétorique qu'on appelait le comble. Par exemple, c'est précisément parce que nous croyons pouvoir conclure à l'achèvement de l'histoire qu'il nous est impossible de la penser comme telle. Ou bien, c'est précisément parce que nous pensons travailler à construire le futur que le futur nous échappe de façon décisive. Il y a un côté farceur dans cette affaire. Parce que je crois que ça s'adresse à la fois au lecteur et probablement, et peut-être plus profondément, à Gaucher lui-même. Pour le lecteur, ça veut dire que quand on l'a accompagné tout au long d'une démonstration, qu'on pense toucher au but, avoir compris, c'est là que Marcel Gauchet nous tire le tapis sous les pieds et nous explique que c'est précisément au moment où nous pensons avoir compris, c'est le comble, qu'il va nous falloir nous mettre à réfléchir et à penser. Et en un sens, ça serait agaçant, je crois, si il ne se l'appliquait pas aussi à lui-même, c'est-à-dire c'est précisément au moment où je viens de déblayer le terrain, où je viens de régler ce préalable, qu'il me faut commencer à entrer dans le sujet, ce qui évidemment promet encore des milliers de pages à venir.
Marcel Gauchet, c'est vrai que vous ressemblez un peu à Groucho Marx, de là à dire que vous êtes l'intellectuel le plus comique de tous les intellectuels français, je ne sais pas.
Ce n'est pas à moi de le dire. Mais ça me sied, ça me convient.
Vous convient. Ce que vient de dire Mona Ouzouf, vous écrivez pour vous, pour vos lecteurs, pour tirer des enseignements, ce qu'on peut dire. Le dernier livre fait plus de 700 pages. Les auditeurs sont pas du tout obligés de me croire, mais c'est vrai que avec un stylo à la main, eh ben c'est vrai qu'on n'a pas envie de sauter des pages, parce que vous nous emmenez dans des argumentations, dans des circonvolutions qui font appel à plusieurs champs disciplinaires, comme vient de l'expliquer Mona Ouzouf, mais vous n'avancez jamais avec des certitudes.
Non,
vous nous posez des questions.
Je me les pose à moi-même, ou plus exactement, tout mon travail d'analyse me semble déboucher toujours sur des mises en question qui font que, justement, l'histoire est ouverte et qu'il y aura un au-delà de ce que je peux présentement établir, avec une certaine certitude, mais dont je sais qu'elle représente un moment dans un parcours qui va se continuer et qui ouvre sur de nouvelles questions. Mais au fond, c'est le travail de l'enseignant qui est l'âme de ma démarche, je pense, qui consiste à inciter plutôt que d'apprendre.
Oui, mais écoutez, Raymond Aron jeune.
Il faut savoir des choses quand on enseigne. Il faut essayer de faire apprendre des choses aux gens, mais il faut surtout leur apprendre à penser et à mettre en question ce qu'ils croient savoir. Et je me l'applique à moi-même et j'essaie de le communiquer aux autres. Mais je suis très touché de ce que dit Mona Ouzouf, pour laquelle j'ai une admiration et une affection pour l'exceptionnelle qualité de ce qu'elle nous donne à lire, qui est pour moi chaque fois un bonheur. Donc je reconnais son œil. Absolument implacable dans l'analyse et évidemment, je ne m'attendais pas à ce qu'elle me l'applique.
Alors Mona Ouzouf est une intellectuelle.
J'ai toujours du plaisir à la suivre.
Et elle a abordé aussi des chemins autobiographiques en parlant justement des livres qui l'ont beaucoup marqué, qui ont façonné son destin, son être au monde.
Son enfance.
Son enfance avec sa mère institutrice, etc. Vous n'allez pas si loin sur le chemin autobiographique, mais par contre, il y a un tempo, si j'ose dire, qui parcourt tout votre travail depuis 3 décennies, Marcel Gauchet. C'est ce que note Mona Ouzouf dans ce qu'elle vient de dire, c'est le temps. Vous êtes pour l'étude de l'histoire longue, avec des longs cycles, mais en même temps, vous êtes préoccupé, et vous nous le dites à plusieurs reprises dans ce dernier ouvrage, par cet impératif du présent qui nous enserre, qui nous assaille, qui nous emprisonne. Et vous nous dites qu'il nous emprisonne tellement, ce présent, que nous, en Europe, laboratoire de la modernité démocratique que nous allons bientôt inventer, eh bien ce temps présent ne nous permet pas de nous projeter dans l'avenir.
Nous sommes en effet victimes d'une sorte d'hypnose du présent, qui tient, pour une part importante, à la capacité de le connaître que nous avons par rapport à nos devanciers. Il n'y a pas si longtemps, les nouvelles mettaient des semaines, parfois, pour arriver vis-à-vis d'événements de première grandeur. Nous sommes dans une présence au présent, qui est l'originalité absolue de notre expérience, et cela se déroule dans un fond où le passé s'est absenté, alors qu'il est en même temps omniprésent, sous sa forme monumentale partout autour de nous, et où nous travaillons avec un tel acharnement à l'avenir que nous avons un regard complètement myope sur cet avenir. Nous ne voyons que le lendemain, que le travail immédiat que nous allons faire. Et c'est ce sentiment-là, dont je participe, comme tout un chacun, que j'ai voulu combattre de façon tout à fait délibéré, je crois que c'est, vous avez raison, c'est mon projet le plus profond, c'est d'essayer de retrouver le vrai temps de l'expérience humaine, qui est un temps lent, qui est un temps immense. Les choses les plus familières que nous croyons connaître, en fait, dès qu'on va chercher dans leur généalogie, vous amènent des siècles plus loin. On voit bien, même dans l'expérience que chacun peut faire à l'échelle de sa vie, combien une évolution intellectuelle dans une société donnée prend des décennies pour vraiment s'installer, pour devenir acquise. Et je crois que c'est cette temporalité de l'expérience humaine qui dépasse infiniment nos vies individuelles que j'ai essayé de restituer. C'est, dès qu'on réfléchit sur la politique, la chose à laquelle on est confronté, la grande contradiction. Nous avons un calendrier politique. Ce calendrier politique est rythmé par une idée simple. Il ne faut pas que les gens s'incrustent dans leurs fonctions pour un temps très long. Il y a une nécessité du renouvellement. Mais en même temps, nous voyons bien, dès qu'on y réfléchit, que le temps, ce temps politique court, n'a rien à voir avec le temps vrai de l'évolution des sociétés sur lesquelles nous voudrions peser. Et c'est ce qui fait le drame du personnel politique aujourd'hui. Il est pris entre la nécessité de la réaction immédiate, de l'action directe au jour le jour, et une temporalité qui dépasse complètement cet horizon-là, sur laquelle il n'a aucune prise. D'où ce sentiment d'évidement de la politique qui est courant, qui est vraiment dominant dans nos sociétés. Et je crois précisément qu'une des idées forces de la démocratie de demain, c'est de réussir. Ce sera de réussir à placer les échéances du présent, qui sont pour une part immédiates et il faut bien y faire face, dans le temps long de l'invention démocratique sur les décennies qui sont celles du temps humain.
Alors, dans ce nouveau livre, Le Nouveau Monde, Marcel Gaucher, vous analysez la dissolution de la classe ouvrière, en tout cas du concept de classe ouvrière qui n'est plus utilisé par les hommes politiques, ni de gauche, ni de droite. Nous allons remonter un peu en arrière et écouter la voix de Georges Marché, qui va refaire l'historique du programme commun, dont vous parlez abondamment dans ce nouvel ouvrage. C'est une archive INA du 21 janvier 1980. Il était au micro, Georges Marché, de Jean-Pierre Elkabbach et Alain Duhamel. Écoutez, on s'en lasse pas.
Contrairement à ce qu'était l'engagement qui avait été pris entre le Parti Socialiste et nous, dans le constat que nous avions fait à la fin de 70, François Mitterrand n'a signé le programme commun comme un moyen d'affaiblir le Parti communiste français.
Deux questions.
Et ce sera sa ligne constante contre laquelle nous allons devoir lutter de 1972 à 1977.
Alors, deux questions.
Et en 1977, j'en aurai terminé de ma démonstration, parce que là encore, il a dit une contre-vérité que vous n'avez pas relevée. Quand il a dit, c'est Georges Marché qui, en 1977, le premier, sur la question de politique extérieure, a remis en cause le programme commun.
C'est une question. 31
juillet. Eh bien, messieurs, ça s'est passé le 28 juillet. J'étais en Corse avec ma femme devant la télévision, et quand j'ai entendu François Mitterrand, c'était à 13h, quand j'ai entendu François Mitterrand refuser de s'engager sur l'existence d'une défense nationale indépendante, j'ai dit à ma femme, François Mitterrand a décidé d'abandonner le programme commun de la gauche, fait les valises, on rentre à Paris. Et nous sommes rentrés à Paris, et c'est au début d'août qu'à la télévision, je me suis expliqué sur cette question-là.
Alors voilà un homme qui parlait clair. Et qui parlait de sa femme autrement que certains en ce moment.
Si l'on veut. Elle était là pour faire les valises, vous remarquerez tout de même. Il ne lui avait pas demandé spécialement de conseil politique. C'est lui qui définissait la ligne. Et pas seulement dans le ménage, d'ailleurs. Alors, c'est une époque de la politique, quand on entend cela, quand on entendait tout à l'heure Merleau-Ponty, qui est complètement révolue. Il y a une rupture de ce point de vue, mais totale. quand on pense à ce qu'a été le prestige du Parti communiste français en tant que parti de la classe ouvrière, chose que ne lui disputaient pas ses adversaires. Il avait une fonction reconnue, une sorte de légitimité historique qui l'ancrait dans le paysage. L'un des plus grands changements que nous avons connus au cours de ces dernières décennies, c'est la disparition, pour de bon, de l'idée d'un prolétariat révolutionnaire comme la force motrice de l'histoire et son agent supérieur de l'émancipation du genre humain, comme on disait, comme on dit encore, dans un champ qui continue d'être pratiqué, mais dont le sens est pour le moins dilué.
Oui, mais alors ce qui était assez étonnant, Marcel Gauchet, dans votre pensée, c'est que vous êtes optimiste, lucide mais optimiste, contrairement à beaucoup d'intellectuels qui sont pessimistes sur le devenir de notre démocratie, et ne l'êtes-vous pas trop? Je veux parler, par exemple, de ce parti anti-système qui a réussi à capter une partie de ce qu'on nommait le prolétariat et de cette montée de ce parti extrême sur lequel vous n'avez aucun problème. Vous êtes persuadé qu'il n'y a pas de possible montée du Front National pour les prochaines élections présidentielles. Vous pensez que la France jamais ne se résoudra à embrasser ce parti anti-système. Pourquoi ?
Pour un faisceau de raisons, il n'y en a pas une seule. D'abord, ce parti anti-système, il faut bien voir qu'il est très loin de ce qu'on a pu connaître dans le passé comme parti anti-système. C'est pas un parti fasciste, c'est pas un parti avec des milices armées qui pratiquent la terreur pour gouverner la rue et qui se préparent à l'assaut du pouvoir dans des conditions d'intimidation à tout le moins, Mussolini, ou carrément par la violence. Donc, ce parti anti-système est déjà en partie imprégné par l'esprit du système, et c'est tant mieux. Je ne vais pas le lui reprocher. Je pense que c'est un élément important d'appréciation des données qui fondent un certain optimisme. Et par ailleurs, je crois qu'il faudrait une analyse fine des conditions politiques dans lesquelles se déroule la chose. Je crois que ce parti est limité. C'est d'ailleurs une chose que beaucoup d'observateurs politiques relèvent. On parle du plafond de verre qui peut lui donner une force électorale considérable, qui sera très grande probablement au moment de l'échéance présidentielle, qui va être cruciale à cet égard, mais qui fait que les gens, dans leur masse, répugnent à l'idée qu'il accède au pouvoir. Donc il sera une force d'opposition extrêmement importante. Mais c'est pas la même chose que d'accéder au pouvoir. Et cela parce que je pense que nos sociétés ont fait une expérience historique qui ne s'efface pas et qu'elles n'ont pas envie d'aventures de style totalitaire. Même soft. Hein, on n'est pas dans les années 30. Il y a beaucoup de garde-fous qui nous protègent. Mais je crois que les sociétés européennes, la société française dans le cas, ont énormément appris. Elles ont acquis une sorte de sixième sens démocratique qui, au jour le jour, peut paraître assez faible ou erratique, mais qui, dans le fond, fait que nous sommes vaccinés contre un certain type d'aventure. Je crois que vraiment, la démocratie s'est enracinée dans le sol européen d'une manière qui nous protège et qui est un des facteurs sur lesquels nous pouvons précisément espérer dans le futur, espérer bâtir une démocratie plus au point que celle qui patauge beaucoup dans laquelle nous vivons aujourd'hui.
Alors je voudrais qu'on termine sur la liberté, puisque c'est sur la liberté que vous clôturez ces quatre volumes sur la démocratie. Vous écrivez ceci, Marcel Gauchet, « L'homme n'est pas né libre, il est né dans les fers, des fers qu'il s'est forgé lui-même pour se soutenir dans l'existence. Mais c'est pour découvrir au terme de ce périple, cette vérité aussi simple qu'implacable, que la liberté ne nous sera jamais donnée, qu'elle devra toujours être voulue. Nous en avons les moyens. L'histoire dont nous sommes les héritiers les met à notre disposition.
Oui, nous avons pensé la liberté comme une libération. C'est-à-dire, au fond, la liberté, ce serait le moment où il n'y aurait plus de contraintes. Alors, probablement était-ce l'illusion nécessaire pour se délivrer de ces contraintes. À beaucoup d'égards, ces contraintes sont derrière nous. Il y en a d'autres, mais qui sont à notre portée. Nous les comprenons, nous en savons la nature, nous pouvons imaginer des moyens de les contourner. Simplement, la liberté, ce n'est jamais quelque chose qu'on peut considérer comme un acquis. Nous avons les moyens d'être libres, mais si nous ne voulons pas les utiliser, nous ne serons pas libres. Et il n'y a pas d'état de l'histoire, comme celui dont on a pu rêver sous le nom d'émancipation, où au fond, les choses marcheraient toutes seules, chacun ferait ce qu'il veut dans son coin, et par harmonie générale, tout ça fonctionnerait hors de toute difficulté. C'est le contraire. La liberté, c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est le sommet de la difficulté.
Alors, on va terminer par votre second choix musical, Marcel Gaucher. Vous avez proposé Art Blakey et The Jazz Messengers. Pourquoi ?
C'est peut-être à titre nostalgique et puis pour exprimer quelque chose que je ressens profondément. Le jazz a disparu au fond des grands médias. C'est quelque chose qui est devenu marginal, une sorte d'avant-garde des caves qui n'existe plus dans l'espace public. Et cette musique était l'indicatif d'une émission qui a énormément compté dans l'histoire musicale française. Pour ceux qui aiment le jazz dans les années 60, Franck Teno et Daniel Filipacchi.
Et ben nous aussi à l'heure bleue, on aime beaucoup le jazz, donc on va se quitter en écoutant Art Blakey et The Jazz Messengers. Je rappelle les deux ouvrages de Marcel Gaucher, L'avènement de la démocratie 4, Le Nouveau Monde chez Gallimard, et en livre de poche vient de sortir ces jours-ci Comprendre le malheur français avec Éric Conant et François Azouvi aux éditions Gallimard. Merci à toute l'équipe de L'Heure Bleue, à Thierry Dupin, à Véronique Barnet qui a réalisé cette émission qui a été préparée comme chaque soir par Élodie Royer, Anne-Sophie Dazard et Arthur Daniel, avec à la technique ce soir Patrick Henry. Merci à toutes et à tous.